terminons notre parcours de prédication que nous avons entamé il y a un mois. Un parcours durant lequel on a exploré ensemble le début du récit biblique, les chapitres 1 à 11 de la Genèse. Et comme ces chapitres nous racontent les débuts de l'histoire de la Terre, les débuts de l'humanité, on avait intitulé ce parcours « Il était une fois ». Le premier dimanche de notre parcours, on avait étudié le récit de la création, Genèse 1. Dieu, unique mais trois en même temps, avait créé toutes choses bonnes et belles. Et parmi ses créatures, il a choisi les humains pour être ses représentants, qui doivent prendre soin de sa création et qui reçoivent en retour, en cadeau, de vivre une relation personnelle avec leur créateur. Mais pendant le dimanche suivant, on avait étudié Genèse 2 et 3, le récit de la chute. Les humains avaient le choix entre deux chemins de vie. D'un côté, ils pouvaient s'en remettre à Dieu en toute chose, ils pouvaient lui faire confiance, et vivre éternellement dans une relation parfaite avec leur Créateur. Ou bien ils pouvaient rejeter cette relation, ils pouvaient décider de choisir eux-mêmes ce qui est bien ou mal pour eux, sans tenir compte de l'avis de leur Dieu. Mais s'ils le faisaient, ils se coupaient de la relation à Dieu, cette relation qui donne la vie, et donc ils allaient tout doucement vers la mort. Malheureusement, l'orgueil des humains a pris le dessus, ils ont choisi de rejeter Dieu, pensant pouvoir vivre librement. Mais ils n'ont fait que se tromper, ils se sont coupés de l'amour et de la vie éternelle que leur donnait gratuitement leur Créateur. Cependant, Dieu restait fidèle dans ses textes et il annonçait qu'il a un plan pour réconcilier l'humanité avec lui-même, pour sauver les humains, pour les pardonner de leur révolte, pour les accueillir à nouveau dans sa relation et leur redonner accès à la vie en abondance. La suite de la Genèse, au chapitre 4, on n'avait pas étudié ce texte ensemble, mais le chapitre 4 ne faisait que confirmer tout le mal que l'humanité avait choisi de suivre, parce qu'on y trouve le récit du premier meurtre, celui de Caïn qui tue son frère Abel. Mais même là, Dieu reste fidèle et il continue de prendre soin des humains. On en était alors arrivé dimanche dernier au chapitre 6 à 9 de la Genèse, le récit du déluge. Et on découvrait alors que si Dieu est effectivement amour, rempli d'amour, il est aussi justice. Il ne déclare pas le coupable innocent. Et il en viendra à demander à chacun de rendre compte de ses actes. Mais la justice de Dieu reste remplie de son amour. Et avec Noé, nous avions un exemple de la fidélité de Dieu qui n'abandonne pas ceux qui s'en remettent à lui. Et nous arrivons aujourd'hui au dernier chapitre de notre parcours, le chapitre 11, avec un récit assez célèbre, le récit de la tour de Babel. Et je vous invite à suivre ensemble cette lecture. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Faisons donc des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, « Bâtissons-nous donc une ville et une tour, dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Le Seigneur dit, « Ainsi, ils sont un peuple, un seul peuple. Ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc, et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'a appelée du nom de Babylone, « brouillage », car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Donc, tout d'abord, nous allons nous poser la même question que Pour tous les autres textes que nous avons étudiés durant ce parcours de prédication, est-ce que ce passage raconte des faits historiques ? Est-ce que c'est vrai ce que ça raconte, ou est-ce que c'est imagé, stylisé ? Eh bien, comme à chaque fois, la réponse sera la même, mais c'est un peu les deux. Ce texte se base sur des événements historiques, mais il les raconte de manière stylisée, pour en faire ressortir pas tous les détails historiques, c'est pas le propos ici, mais pour en faire ressortir le sens de ces événements. Et là, et c'est là qu'on voit en fait tout le tout que forme Genèse 1 à 11, ce que nous étudions dans ce parcours, ça forme un tout parce que c'est écrit de la même manière. Alors ici, qu'est-ce qui est historique et qu'est-ce qui est stylisé ? Eh bien, effectivement, il y a une ville de Babylone qui est célèbre pour ses fameux jardins suspendus, une des sept merveilles du monde antique, qui n'existe plus aujourd'hui. Alors sur cette carte, on a ici l'Égypte, pour en bas à gauche de la carte, pour se repérer. On a à côté la région de Palestine, avec la ville de Jérusalem. Eh bien Babylone, c'est de l'autre côté de ce désert que vous voyez, ici entouré. C'est dans la région de Mésopotamie. C'est la région dans laquelle Abraham va naître et grandir avant que Dieu l'appelle à partir de cette région de Mésopotamie pour la Palestine. Babylone est donc une ville construite en Mésopotamie et dans laquelle on trouve une tour. Et cette tour, on en a déjà des traces écrites, on a des textes babyloniens qui en parlent, mais on a aussi des traces archéologiques. On a retrouvé les fondations et une partie de cette tour, par des fouilles. C'est ce qu'on appelle une ziggourate, une sorte de pyramide à étages. Alors, cette image, c'est une reconstruction possible, probable, de la ville de Babylone à son apogée, pas au tout début, ça c'est vraiment à son apogée. C'est le fruit des recherches archéologiques récentes. Les archéologues ont tenté, par une maquette, de reconstituer la ville telle qu'elle devait être. Et la ziggourate, c'est cette grosse pyramide à base carrée que vous voyez qui dépasse un peu du reste. C'est pas un bâtiment unique, on a retrouvé une trentaine de ziggourates en Mésopotamie. La ziggourate de Babylone a connu plusieurs épisodes de construction, destruction, reconstruction, agrandissement, mais il semble que le début de son histoire, possiblement, remonte à environ 2000 ans avant Jésus-Christ. À son apogée, cette ziggourate faisait 90 mètres de côté et 90 mètres de haut sur 7 étages. Et elle était composée, on estime, d'environ 36 millions de briques. Certaines briques crues, d'autres en briques cuites. La ziggourate de Babylone servait en fait à relier deux temples. Il y avait un temple au sol et un autre temple au sommet de la ziggourate. Et le tout, les deux, l'ensemble, ça formait un complexe. Un complexe qui était appelé Essagil, nous disent les textes babyloniens de l'époque, ce qui veut dire maison au sommet élevé. Et certains, justement, de ces textes babyloniens précisent que cette tour, pour eux, tenait en fait le lien entre la terre et le ciel. Et le texte biblique retransmet bien ce nom en faisant dire aux bâtisseurs, dans notre texte, bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Voilà pour ce qui est historique. Mais qu'est-ce qui est stylisé, alors, dans ce récit ? Eh bien, c'est un peu toute l'histoire, parce que Babylone et sa ziggourate ne se sont pas construites en une seule fois, ni en quelques années. Vous imaginez bien qu'on n'arrive pas à ça en une génération. Ça prend des siècles. Il y a eu des invasions, des destructions, des reconstructions, des agrandissements. Mais notre texte donne l'impression que la ville et la tour se sont construites très rapidement et avec les mêmes personnes en une génération. En fait, de manière stylisée, l'auteur de la Genèse fait un ultra résumé de toute l'histoire de Babylone. Il dit juste que des hommes se sont rassemblés à un endroit et y ont construit une ville et une tour. Je sais, c'est très résumé, mais c'est un peu, pour faire un comparatif, comme si on voulait résumer l'histoire de la ville de Paris avec sa tour à elle, la tour Eiffel, on pourrait la résumer de la manière suivante. Des hommes s'installèrent en France, dans un bassin traversé par un fleuve. Ils y fondèrent une ville et y bâtirent une tour qu'ils revêtirent de lumière pour qu'elle scintille durant la nuit. Voilà, c'est une manière stylisée de résumer l'histoire de Paris, une histoire qui s'étale sur des siècles, et pourtant en donnant l'impression que tout a été fait très rapidement par les mêmes personnes en une génération. Eh bien, notre texte biblique fait la même chose ici, et voici comment il résume l'histoire de la ville de Babylone. Partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Faisons donc des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom. » Voilà pour le côté historique et à la fois historique et stylisé de ce texte. Il y a un autre point qu'il nous faut étudier, c'est l'expression « terre entière ». On trouve ça plusieurs fois dans notre texte. On trouve « Toute la terre parlait la même langue. Faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. » Ou encore « C'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. » Alors, cette traduction de notre texte donne l'impression que l'humanité tout entière parlait la même langue et que toute l'humanité était réunie en une seule ville, dans cette ville de Babylone, puis que Dieu a créé les différentes langues et qu'il a dispersé l'humanité sur la terre entière. Alors ça paraît très bizarre, parce que si les événements historiques remontent effectivement à environ 2000 ans avant Jésus-Christ, on sait très bien qu'il y avait des humains déjà très dispersés sur toute notre planète et qui parlaient pas du tout la même langue. Mais en fait, comme on l'avait vu la semaine dernière avec le récit du déluge, le mot hébreu, qui est traduit par terre, a aussi deux autres sens. Il veut dire terre, c'est vrai, mais de la même manière, il veut dire pays ou région. Et ici, ça semble quand même bien plus juste de traduire ce mot hébreu par région ou à la rigueur par pays, tout simplement parce que le texte est en train de raconter des événements localisés, régionaux. Et il le précise, il le dit lui-même, il précise que ça se passe dans la vallée de Shinéar. Donc quand on parle de choses qui se passent dans une vallée, il semblerait évident de traduire le mot hébreu par région, à la rigueur par pays, mais pas par terre entière. De plus, on l'a déjà vu, le texte raconte des faits historiques, mais de manière stylisée. C'est pas qu'un récit historique. Donc l'auteur a très bien pu faire exprès de mettre ici cette ambiguïté de sens entre région ou terre entière. Il a pu faire en fait exprès de prendre des événements historiques très localisés, de les styliser ensuite de manière à appliquer le sens de ces événements localisés à toute la terre. Parce que ce qui est arrivé dans cette ville de Babylone, le sens de ce qui s'y est passé, ça peut s'appliquer à toute l'humanité. Alors justement, quel est ce sens ici qui concernerait tous les hommes? Eh bien, le texte fait avant tout la critique d'un grand projet humain. Il ne s'agit pas de dire que l'urbanisme est mauvais, hein, c'est pas ça le propos de ce texte. Non, ici, il s'agit d'un peuple qui va agir ensemble par orgueil, dans un projet démesuré et à l'encontre du plan divin. Alors, pourquoi est-ce que j'affirme qu'ils ont agi par orgueil? Eh bien, parce qu'ils le disent eux-mêmes. Je vous relis leur motivation pour construire une ville. « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » Ces gens veulent se faire un nom. Ils veulent rentrer dans l'histoire. Ils veulent rester dans les mémoires. Et pour ça, ils vont entreprendre un projet démesuré qui existera bien après eux. C'est un peu comme si, à travers ce monument, à travers cette ville, ils allaient pouvoir, d'une certaine façon, vivre éternellement. C'est de l'orgueil, mais c'est aussi de la peur, de la crainte. Nous l'avons vu tout au long de notre parcours, les humains ont rejeté Dieu, mais du même coup, ils se sont coupés de la vie que cette relation à Dieu peut nous donner, et ils vont lentement vers la mort. Et les humains ont peur de ça. Ils ont peur de disparaître, de n'être plus rien, de ne rien laisser derrière eux. Ils ont peur d'être oubliés, dispersés, disséminés dans l'anonymat des siècles. Et pour lutter contre cette peur, les hommes cherchent un moyen de vivre éternellement. Alors aujourd'hui, on le recherche médicalement, en retardant toujours plus la vieillesse. Mais à l'époque, ils le cherchaient par des constructions phénoménales au travers desquelles ils pourraient continuer à vivre. Mais souvenez-vous de l'épisode de la chute en Genèse 2 et 3 que nous avons étudié il y a quelque temps. Dieu a chassé les humains de son jardin, de sa présence, pour ne pas qu'ils vivent éternellement. Lorsque les hommes cherchent l'immortalité, Dieu vient leur rappeler que c'est lui seul qui est éternel. Et si les humains cherchent la vie en abondance, c'est uniquement auprès de Dieu qu'il faut la chercher. Eh bien ici, Dieu vient à nouveau mettre fin à la recherche d'immortalité des humains. Ils avaient peur d'être disséminés dans l'histoire, dans l'anonymat de l'histoire. Eh bien Dieu, lui, les dissémine dans l'espace. Il les disperse. Ils redeviennent des anonymes. La vie jusque dans l'éternité ne peut se trouver qu'auprès de celui qui est la vie, celui qui donne la vie, notre Seigneur. Et juste après notre texte, juste après Genèse 11, il y a un petit clin d'œil qui est fait à ces Babyloniens qui veulent se faire un nom et devenir une grande nation par leurs propres efforts. On trouve ce clin d'œil en Genèse 12, au verset 2, donc juste après Genèse 11 et notre texte. Et là, Dieu choisit Abraham. Dieu choisit un homme seul et il lui dit ceci. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Les Babyloniens voulaient s'unir pour devenir une grande nation et se faire un nom. Et ils échouent. Mais Dieu choisit, lui, un homme seul. Et il lui promet de faire de lui une grande nation et de lui donner un grand nom. La grandeur de la destinée humaine et la vie jusque dans l'éternité, on ne peut pas les obtenir par nos propres forces. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut les recevoir. De toute façon, notre texte nous montre bien que l'entreprise des Babyloniens était vouée à l'échec. Ils voulaient toucher le ciel avec leur tour, et dans le texte, Dieu est obligé de descendre du ciel pour voir cette tour, comme si elle était finalement tellement petite et insignifiante qu'il devait s'approcher pour la voir. Parce que toute la démesure de notre orgueil ne sera jamais rien devant la grandeur de Dieu. En revanche, c'est l'amour que Dieu nous porte, c'est l'amour que Dieu nous donne, c'est un geste de Dieu envers nous qui nous donne une importance, qui donne une valeur à notre vie, une valeur qui dépasse tout ce qui existe de précieux en ce monde. Mais ce texte approfondit également encore la question du mal chez les êtres humains. Dans les récits précédents, on avait vu que le mal nous coupe de la relation à Dieu. On avait vu aussi avec Caïn qui tue son frère Abel que le mal peut briser la relation entre les humains. On avait vu aussi que le mal est à la fois intérieur à l'humain et généralisé. Même Noé, qui est présenté comme juste, finit par commettre le mal. Aucun n'est juste, tous font le mal, même si tous pratiquent également le bien. Mais le mal est un problème individuel, commun à tous les humains, et qui se trouve en eux. Mais ici, avec ce récit, on rentre dans autre chose. On voit maintenant que le mal peut également être le fruit d'une décision, d'une action collective. C'est ce que Dieu révèle au verset 6. Le Seigneur dit « Ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. » Unis, le peuple n'a dans un certain sens plus de limites. Et ce texte est là pour nous mettre en garde. Oui, il faut faire attention au mal individuel qui est en nous-mêmes. Mais ici, nous prenons conscience de l'amplitude que peut prendre la faute humaine quand elle est portée par un peuple uni. Les humains peuvent s'unir en visant le bien, mais ils peuvent également s'unir dans leur folie ou dans leur orgueil. Le mal profite parfois des structures humaines pour renforcer son emprise. Et malheureusement, je pense que j'ai pas besoin de donner de détails, d'exemples précis. L'histoire de notre pays et de l'Europe est remplie de faits de ce genre. Une structure humaine, politique, étatique, qui renforce le pouvoir des hommes et qui a pour résultat des catastrophes et des massacres que nous n'aurions jamais pu imaginer pour des êtres humains isolés. Dans ce texte, Dieu désunit les humains pour donner une limite pratique au mal qu'ils peuvent commettre. S'ils commettent le mal de manière isolée, ça prendra pas les proportions d'un mal collectif. Mais Dieu ne veut pourtant pas que l'humanité reste désunie. En effet, par la mort de son Fils, Jésus-Christ, Dieu a payé lui-même ce que nous méritions pour tout le mal que nous faisons. Il nous a pardonné, il nous a redonné accès à une relation parfaite et intime, personnelle avec lui. En lui, nous trouvons le pardon, le salut et la vie jusque dans l'éternité. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Son plan va plus loin. Il donne aussi son esprit à chacun des croyants. Il leur donne son esprit pour les unir, pour former une nouvelle humanité à partir de l'ensemble de toutes les nations dispersées sur la terre. Tous les hommes, toutes les femmes, tous unis en Jésus-Christ, deviennent alors des frères et des sœurs, membres d'un même peuple, d'une même famille, la famille de Dieu. Nous sommes tous ses enfants, et il est celui que nous pouvons appeler notre Père. Les Babyloniens voulaient s'unir dans la folie de leur orgueil, pour leur propre gloire et par leurs efforts. Eh bien Dieu, quant à lui, unit les croyants de l'ensemble de la terre, dans son amour et sa justice, en Jésus-Christ et par son Esprit. Les Babyloniens voulaient devenir un peuple qui vivrait éternellement, mais ils ont disparu de l'histoire, alors que Dieu promet aux croyants de les prendre avec lui pour vivre éternellement dans sa présence. Nous arrivons à la fin de notre parcours de prédication sur Genèse 1 à 11, un parcours intitulé « Il était une fois ». Il était une fois un Dieu créateur, tout-puissant, plein d'amour pour ses créatures. Mais les humains l'ont rejeté pour vivre leur vie sans lui. Dans sa justice, il viendra à juger chacun pour ses actes. Mais dans son amour, il désire les sauver pour leur donner la vie jusque dans l'éternité et pour les unir à lui et entre eux, pour toujours, dans une grande famille, dans un seul peuple, le peuple de Dieu. Notre parcours se termine de manière bien pessimiste sur ce texte. L'humanité vit sans Dieu, dispersée, désunie, faisant le mal, allant vers la mort. C'est ainsi que s'achèvent les chapitres 1 à 11 de la Genèse. Mais Dieu reste fidèle et il y a encore de l'espoir. Parce que nous avons lu ce que Dieu promet à Abraham dès le début de Genèse 12. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. À partir d'Abraham, duquel est sorti le Christ, Dieu a béni et pardonné ceux qui s'en remettent à lui. Il les a adoptés comme ses enfants et il les a unis en un seul peuple qui vivra pour l'éternité dans la présence de Dieu. Mais ça, c'est déjà la suite de l'histoire. Il était une fois se termine. La suite, maintenant, c'est à vous de la lire. Amen.